Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
OK, on est de retour pour la période de questions de la zone payante, oui. Hein?
Oh!
J'ai déjà entendu mon sifflet.
Tu l'as retrouvé.
Mais je ne l'ai même pas retrouvé. Il est parti. Écoute, pendant la pause, j'ai essayé de le partir. Ça partait pas. J'ai fait une moue déçue et je suis retourné ailleurs. Et là, c'est comme s'il m'appelait au secours.
Écoute, tout est dans la moue déçue.
S'il est vivant...
Hey, boy, deux fois plutôt qu'une.
Robin, on va commencer par Thomas. Thomas!
Tu viens de voler un punch, il va avoir un moment Robin.
Thomas de Bordeaux, qui nous pose une question. Et là, cette semaine, on est 11 en 16 tous les deux. Donc, je sais pas si c'est bon ou pour toi ou pour moi, mais il nous pose une question et il nous souhaite bonne et heureuse année. D'ailleurs, on lui retourne le compliment.
Ben oui.
Mike Tomlin va terminer sa 17e saison consécutive avec un bilan positif en tant qu'entraîneur-chef. Respect! Quels sont les autres entraîneurs de la NFL à égaler ou à dépasser ce palmarès?
Ouais, en fait, c'est 17 saisons sans un dossier
fiche
négatif.
Perdante.
C'est ouais, ça, c'est juste la nuance, là, ça a l'air con de dire ça parce que il y a eu des saisons de 8-8 à l'époque où il y avait 16 matchs, il n'y a pas si longtemps. Fait que c'est 17 saisons consécutives sans un bilan perdant. Puis les deux seuls dans l'histoire qui ont fait mieux, c'est Bill Belichick avec les Pats, 19 saisons de suite. Puis le grand gagnant, Tom Landry avec les Cowboys, entre 1965 et 1985, 21 saisons de suite. C'est quand même quelque chose. Félicitations à l'homme au petit chapeau, Tom Landry. Thomas, tu iras googler Tom Landry. Tu vas lire plein d'informations intéressantes sur lui. C'est un entraîneur très novateur là, à son époque.
Robert nous pose la question. Bonjour, on voit souvent les entraîneurs et les coordonnateurs se couvrir la bouche avant de donner leurs instructions dans le micro. Ma question, est-ce que les équipes ont vraiment parmi leur personnel une personne attitrée à lire sur les lèvres et décoder les appels des jeux et communiquer rapidement l'information aux joueurs? Question plus large, les équipes consacrent-elles beaucoup de ressources pour décoder les infos données par le corps arrière lors des appels de jeu?
C'est une bonne question, Robert Amiotte. Merci. Je me demande si c'est pas sa première question. En tout cas,
oui, il termine d'ailleurs en disant qu'il nous souhaite bonne année et qu'il permet de souhaiter à l'animateur moins de défaitisme dans sa partisanerie.
Ah.
En plus de quelques victoires des Dolphins en janvier. Ben là,
j'aime déjà notre nouveau.
Premièrement, Robert ne spécifie pas quel animateur est défaitiste. Là.
Ben,
peut-être que c'est de toi qui parle.
Peut-être, mais d'après moi...
C'est vrai qu'il fait le lien avec quelques victoires des Dolphins. Peut-être qu'il fait référence à moi, mais ça m'étonnerait en même temps, mais bon, peut-être. Merci Robert pour la question.
Fait que pour
c'est
la question...
Ça, c'est quoi la folie de toujours se cacher autant que ça? Là?
Il parle comme ça avec la main devant les lèvres, puis le carton, puis tout. Là. S'ils font ça, il y a une raison. T'sais, c'est sûr que les équipes investissent là-dessus. Là. T'sais, c'est pas quantifiable. T'sais, c'est dur pour moi de donner une réponse. Ah oui, les équipes ont tant de personnel d'engager pour faire que ça, parce que c'est pas quantifié. Tu vas pas sur leur site, puis dans leur personnel, c'est écrit, bon, ben lui, c'est lui qui est responsable de lire les signaux. T'sais, tu vois pas ça, c'est pas quantifiable, mais c'est certain là, qu'il y a une emphase qui est mise là-dessus. Tu sais, par exemple, je pensais aux Pats parce qu'il y a eu le fameux Spygate. Ça, c'était quoi? C'était en 2007, je pense. 2006, quelque chose comme ça.
Mais ils ont triché tellement souvent accusé, les Pats là, qu'on vient qu'on s'y perd. Je suis d'accord.
T'as perdu le fil, Jean-Nic. Fait que c'est ça, il y avait un dénommé Ernie Adams qui était avec eux, qui était, la rumeur étant qu'il était spécialisé un peu dans ce genre de passe-passe-là, mais tu sais, lui, il avait un titre de conseiller senior ou je sais pas quoi, là, j'ai pas le nom exact du poste qu'il occupait, mais il y a tout le temps, là, les Pats, faut pas penser que c'est les seuls, puis d'ailleurs, quand le scandale était survenu, de manière générale, dans la NFL, on disait à peine à mot couvert, ouais, ben, c'est de même partout, ils sont juste fait prendre la main dans le sac. Fait que, tu sais, j'essaie pas de banaliser ça, mais je pense qu'il y a effectivement un département dans chaque équipe où on dit, OK, vous autres, vous êtes chargés carrément, là, d'essayer de nous avoir le plus possible de signaux, de mots, de vocabulaire des autres équipes. Est-ce que ça amène... Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est combien de pourcents ça t'amène de plus là, de chances de victoire? Bill Belichick lui-même avait déjà dit que c'était à peu près nul. Puis là, Robert Kraft, il avait dit donc, t'es un imbécile d'avoir fait ça. Je sais pas là, à quel point ça amène des chances de plus, mais je suis convaincu que les équipes ont tous des employés là, qui sont affairés à ça.
Jérôme, Jacques nous dit, quel est votre moment le plus mémorable de la saison?
Hey, ça, c'est une bonne question, mais j'ai tout le temps de la misère à chaud comme ça. La saison est pas finie. Puis là, des fois, je me dis que j'ai dû en oublier déjà. Mais pour moi, un moment fort, ben je vais y aller avec mon choix. Je sais pas, toi, si t'en as un, Jean-Nic, mais moi, c'est les Browns en série avec Joe Flacco. C'est pas un moment dans le temps comme tel, là, mais c'est plus un accomplissement pour moi qui est incroyable. Parce que Joe Flacco, là, tout le monde pensait qu'il était fini. Il arrive là, puis bon, les Browns sont supposés de s'écrouler. Puis au contraire, je trouve que ça a été un bel exemple de résilience de Flacco, oui, mais des Browns aussi. Faut pas oublier que c'est une équipe, là. Ouais, c'est pas mal là, le moment moi que j'attendais le moins qui m'a le plus surpris cette année.
Ben moi aussi je jouais avec un corps arrière là, je pense que quand Aaron Rodgers s'est blessé, on a tout dit à Zach Wilson ça va être pourri puis tout ça puis au contraire là, il a prouvé tout le monde tard puis non excusez, je me suis trompé.
C'était trompé d'année, ça c'était en 2032.
Non, oui, c'est ça exact. Non, je vais y aller avec Joshua Dobbs là. Je sais là qu'il est pas mis.
C'est un beau
à
moment,
terme,
c'est vrai.
Là, je l'ai pas mené à terme là, sa belle histoire là, mais tu sais il est arrivé du jour au lendemain en Arizona, on le disait là, son chandail était même pas à la boutique souvenir.
Ah ouais,
il se donnait
bon.
Corps et âme, il est allé chercher comme l'affection du public même s'il perdait là, tu sais les partisans l'ont adopté.
Ouais.
Puis là ils l'ont vu partir avec les Vikings. Tout le monde lui souhaitait bonne chance mais sans trop y croire. Il est arrivé avec les Vikings puis écoute, c'est en partie grâce à lui si vous avez toujours un peu d'espoir.
Totalement.
Avec la semaine 18 d'aller encore se faufiler en séries éliminatoires. Il a pas mené à terme son projet, mais il a donné vraiment des beaux matchs, dont lui, évidemment, là, qui, quand il est arrivé, son premier match avec les Vikings, qui avait couru, qui avait passé, qui avait même soufflé un peu. Tu voyais Kevin O'Donnell qui était wow, tu sais. Fait que je voyais avec ça Joshua Dobbs de mon côté. Un autre Jérôme. Le contrat de toi, bon, non, ok, c'est pour ça que tu me disais qu'on en parlait tantôt, c'est vrai, j'avais oublié. Le contrat de toi expire cette année. Et c'est ben, il va se comparer à Herbert et Burroughs. Hey, c'est un blasphème. Merci, Jérôme. C'est vrai, là, malheureusement. C'est vrai qu'il va se comparer à ça à cause de ses stats. Il a des bonnes stats, mais clairement, sur le terrain, il n'est pas un joueur de concession comme eux. Il a besoin d'être super bien entouré, entraîneur, joueur, schéma de jeu, etc. pour performer. Ma question, que vont faire les Dolphins? Faire une énorme erreur en lui donnant un pont d'or ou faire comme les 49ers avec Lance et accepter le fait qu'ils ont choisi le mauvais gars et passer à autre chose? Ne pas oublier que Miami a une équipe, est une équipe avec la carte de crédit full. Et on va ça va faire mal dans 2 ans. Bon, ben, non. Jérôme, j'étais un peu scoopé tantôt. Je sais pas ce que Steph en pense, mais il vaut-tu un contrat à la Joe Burrow puis à la Justin Herbert? Peut-être Herbert qui a rien prouvé en ce moment.
Non, je pense pas qu'il vaut un contrat comme ça, mais il vaut certainement plus que le sort qui a été réservé à Trey Lance. T'sais, je respecte beaucoup l'opinion de Jérôme Tremblay qui nous écrit. Mais écoute, Trey Lance, là, c'était vraiment, vraiment pas chic. Là. Il arrivait même pas à se hisser dans la conversation pour être deuxième. Tua, je pense qu'il est clairement un autre niveau. Il mérite un contrat pour moi. Puis je pense que les Dolphins, à cause de ses connaissances du système, à cause de la chimie avec Tyreek Hill, vont le ramener. Maintenant, ben c'est ça. Tu soulevais le point tantôt, Jean-Nic. Est-ce que Tua acceptera un contrat de type bridge? Là? Un 3 ans... raisonnable au niveau du montant global ou un contrat structuré de façon à ce que ben ça a l'air d'un ben ben gros contrat là, 5 ans pour 250 millions puis qu'en bout de ligne on réalise que la façon que la structure est construite ben c'est un contrat qui donne 2 ans aux Dolphins puis qu'après ça tu peux résilier sans trop de pénalités. c'est peut-être la solution dans un cas comme celui-là. Je dois peut-être que je l'évalue mal, tu vois. Moi, je le vois plus performant que toi et Jérôme, vous le voyez, là, définitivement. Je pense qu'il a sa place à Miami puis qu'il a démontré de belles choses. Mais écoute, je vais
non, mais laisser on a le temps de faire deux son mondes, là. On a le pire des deux mondes. On a un bon corps arrière, mais on n'a pas un excellent corps arrière. Fait que là, c'est comme les Giants, qu'est-ce qu'ils faisaient avec Daniel Jones? Tu le laisses-tu ouais. partir? Ou tu le signes? Un gros montant, parce que toutes les carrières, tu signes avec des gros montants, que t'as
c'est
pas le choix.
C'est sûr que, c'est ça, tu signeras pas Tua pour 23 millions.
Mais
là,
non.
Maintenant, là, en bas de 40. Tu sais, Daniel Jones, c'est à peu près ça, 40 millions, je pense. T'sais, tu regardes ça avec du recul, ça a l'air d'un très mauvais deal.
Puis, je veux dire, Tua, le triple des stats de Daniel Jones.
Exact.
Fait que, en tout cas. Merci. On va poursuivre d'ailleurs sur les Giants. C'est Simon qui nous écrit. Il nous dit « J'adore l'intensité avec laquelle Giancarlo vit sa passion pour les Dolphins. » C'est pas bon pour mon cœur, par exemple, mais je vous remercie. Dans l'introduction de chaque podcast, vous promettez d'abord beaucoup d'émotions et c'est le cas.
Yes.
C'est quand même un peu comique, vu de l'extérieur, de voir Giancarlo être si convaincu que les Dolphins vont perdre contre les Jets.
Ah, ça, c'était bon. Suite, ça aurait dû être ça, mon moment de l'année, Jean-Nic. Moi, quand que notre auditeur, tantôt, nous a demandé, je pense que c'était Jérôme Jacques qui nous demandait quel est votre moment préféré, là. Ça aurait dû être ça. Ça, c'était fort.
Écoute, je suis un partisan, là. Je connais rien, là. Fait que, je m'emballe, puis là, voilà. Ouais, je pense que les Jets vont gagner.
Tu sais qu'il y en a qui vont ressortir la quote dans un an, dans deux ans. Hein? Je suis un partisan puis je connais rien. Il y en a qui vont l'identifier la quote puis ils vont l'isoler puis te l'envoyer à chaque fois. Là. Ça n'aurait pas dû dire ça.
Je sais. Mais les auditeurs de la zone payante, ils ont plus de profondeur que ça puis ils feraient jamais ça. C'est mal à connaître.
C'est vrai.
Les Giants ont tenté un converti de 2 points à 26-25 en fin de partie plutôt qu'un botté pour l'égalité. Ouais. Je ne suis pas vraiment certain de cette stratégie. Il me semble que c'est nouveau comme approche. Peut-être que c'est arrivé avec les statistiques avancées. Est-ce que c'est nouveau comme approche ou voyait-on aussi cela avant? Est-ce que ça fonctionne véritablement côté statistique? Bon, faut voir, Simon.
Ben, on voyait ça avant, mais c'était beaucoup plus rare. C'est effectivement qu'on le voit plus aujourd'hui, mais ça reste que, oui, ben, il y a d'abord, des stats avancées là-dedans.
Oui, mais d'abord aussi parce que, Steph, là, le 2 points est à la ligne de 2.
Oui. Ah oui, il y a ça. Puis l'autre affaire, dans un cas comme celui-là, plus précisément, tu sais, les Giants, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Donne une victoire à tes gars, ça va leur faire plaisir. Les gars, les joueurs, ils continuent de bûcher, là, même si tout le monde sait que la saison est finie depuis 7-8 semaines. Là. Ils travaillent fort, ils continuent d'investir du temps là-dedans, puis d'essayer d'y croire, de trouver des façons de performer malgré tout. Puis écoute, là, t'as une chance de gagner un match plutôt que d'envoyer ta gang en prolongation. Vas-y, puis écoute, tu peux juste faire plaisir à du monde. Dans un cas comme ça où finalement, ben, tu gagnes pas, écoute, ça change quoi au final au classement? Moi, je pense que dans un cas comme ça, on peut pas trop en vouloir à Brian Daboll.
Félicitations pour votre émission. J'espère que vous allez poser cette question pour le bienfait de votre auditoire. Alors, c'est fait... Oh. Paul-André Gagné.
Ouais. Ouais, on a eu quelques questions de Paul-André Gagné cette saison. Oh!
Ah oui, mais c'est le nom de mon père. J'avais-tu déjà mentionné ça?
Faudrait que tu lui demandes si c'est lui qui lui écrit. OK.
Non, mais il rajoute Junior. Donc, à moins que mon père ait un fils illégitime, ça ne devrait pas être quelqu'un dans ma famille. Mais Paul-André Gagné Junior, tu pourras peut-être m'écrire pour m'assurer que t'es pas mon frère, mais si t'es mon frère, mais je suis enchanté. Peut-être que c'est le temps qu'on ait des retrouvailles, toi et moi. Sa question. Alors, j'avais posé la question au début de saison. Pourquoi l'équipe des Jets n'allait pas chercher une autre QB pour remplacer Rodgers? Et pourquoi pas Kaepernick? Ah ben tiens, parlant de monsieur qui reste on quote, toi-même, tu avais répondu, Stéphane, tout simplement qu'il n'y avait pas beaucoup de QB dispo. Et que l'autre était trop rouillé, en parlant de Kaepernick sans doute. Lorsque l'on regarde la performance de Joe Flacco avec les Browns, et de plus qu'il y avait été un joueur des Jets il y a quelque temps, comment se fait-il que les grands penseurs, les génies de football des Jets, n'ont pas vu en Flacco un certain potentiel d'expérience comparé aux jeunes QB substituts qui sont en général pas tellement bons dans les équipes de la NFL. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, Steph, on a ri des Jets beaucoup en début de saison, et là, on se disait, vous aviez un gars dans votre cour, puis vous l'avez pas rappelé, il joue pour les Browns, puis là, il vous a battu la semaine passée. Paul André qui dit, qui est le génie chez les Browns qui a pris cette initiative et qui sont maintenant en série?
Il y a plusieurs parties dans cette question-là. Paul André, je sais pas si il réfère à moi parce qu'il parle aussi là de, il y a beaucoup d'experts au Québec qui disaient que je ne nomme des chroniqueurs sportifs au Québec que je ne nommerai pas et qui riaient de la décision des Browns. Je me souviens pas si j'ai ri de la décision des Browns d'amener Flacco. Je sais pas si je suis visé dans le commentaire, j'aimerais juste le savoir, mais ça se peut que j'ai ri, ça se peut. Parce que moi, j'y croyais plus en Flacco, là, je le dis en toute humilité. Je me disais que les Browns posaient un geste désespéré, mais à ce moment-là, je me disais, de toute façon, il se retrouvera pas sur le terrain. Il y avait, Watson était blessé, mais il y avait Walker, il y avait Dorian Thompson-Robinson. Fait que les chances de le revoir jouer étaient minces. Fait que moi, je pense que c'est comme ça que je le prenais. Mais pour l'autre partie de la question, pourquoi les Jets l'ont pas signé, par exemple? Faut vous dire une affaire, là. Les Jets l'ont vu là, l'année passée, l'année d'avant. Ils étaient 1-8 avec eux. T'sais, je pense qu'ils ont conclu qu'ils pouvaient pas les amener ben ben loin. Ils avaient vu ce qu'il y avait à voir de lui. C'était pas un bon fit pour leur système de jeu. Je suis pas en train de dire qu'ils ont pris une bonne décision. Je me mets dans leurs souliers. Tu te dis, OK, Flacco est dans la rue. Est-ce qu'on le signe? Ouais, mais il nous a donné 9 matchs. Il en a perdu 8. Pas tellement tentant, là, tu sais. Écoute, je pense qu'ils ont mal géré leur carrière. Ça leur donne rien, là. Mais Flacco, pour eux, c'était pas l'homme de la situation. Ben, ils se sont trompés. Puis qui est le génie chez les Browns? Ben ça, il y a personne qui va arriver en avant puis qui va dire « c'est moi, c'est ma décision ».
C'est pas Catherine Reich?
J'allais dire ça, je me pose la question, est-ce qu'elle est derrière cette décision-là? Ce serait intéressant de le savoir.
Parce mais elle parle juste à Penelope McQuaid, Catherine Reich, malheureusement.
Ouais, c'est plate ça, parce que il y aurait des choses à aller chercher, là, parce que les Browns ont connu une super saison dans des circonstances très difficile, je pense qu'elle aurait beaucoup à dire, Catherine, mais on peut soupçonner là, qu'elle était derrière un geste comme ça, parce que c'est carrément son rôle là à titre d'adjointe au directeur gérant là, d'aider à prendre des décisions dans ce type-là.
Simon nous pose la question, avec les démêlés, avec la justice, les contre-performances après sa grosse blessure, est-ce que c'est la fin de la carrière de Von Miller? Puis moi, je vais mettre une question de plus à celle de Simon. Est-ce que il a compromis son entrée ou son intronisation au temple de la renommée?
Pour ta question, moi je pense pas. Là. Ceux qui votent pour le Hall of Fame essaient en général de tenir compte là de pas tenir compte, c'est-à-dire du hors terrain. Puis tu sais, Von Miller a été spectaculaire en série au fil de sa carrière. C'est lui qui a amené un Super Bowl aux Broncos carrément là. La dernière année avec Peyton Manning, l'attaque, c'était pas très chic. Avec les Rams, il a été extraordinaire aussi là, dans la run des séries. Fait que c'est pour ça, moi, je vais attendre de me prononcer. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? S'il connaît un énorme mois de janvier puis qu'il amène les Bills au Super Bowl, ben non, ce sera pas la fin de sa carrière. Mais c'est clair qu'il y a un gros contrat. Il est pas à la hauteur de ce contrat-là. Il joue seulement 24% des snaps en défensive. Là. Moi, je voyais qu'il jouait pas tant.
Il scratch en fin de semaine, non?
C'est ça, mais 24%, je m'attendais pas que ce soit aussi bas. Là. Honnêtement, c'est sûr qu'à date, il est pas à la hauteur du contrat. Fait que c'est ça, c'est peut-être la fin, mais tant que t'as pas vu Von Miller en série, là, attendons avant de conclure.
Quel est Eddie qui nous pose la question, quelle est votre prédiction pour le Super Bowl? Écoute, moi, en début d'année, j'avais vu un rematch KC contre les Eagles. Si ma mémoire est bonne. Là, j'avoue que ma confiance en KC est un peu ébranlée, mais ils vont avoir une semaine de repos. Ils vont avoir une espèce de... Moi, je pense qu'il y a trop de leadership à KC pour qu'ils se fassent surprendre en série. Même s'ils vont jouer à l'étranger, même s'ils doivent aller jouer à Buffalo, même les Ravens, moi, Lamar Jackson, là, ça se peut là, que ça soit monsieur saison régulière encore. Là. Mais je revois qu'ici, tant que Patrick, moi, je gage pas contre Patrick Mahomes, je pense que tu me l'as très bien enseigné. Je revois Casey, je vais garder mon choix de Casey pour faire une run jusqu'au Super Bowl. Puis, écoute, là, les Eagles, j'avoue que c'est difficile d'y croire, là, tu sais, là. J'ai plus confiance dans les Cowboys en ce moment que les Eagles. Puis mm-hmm. J'ai plus confiance en aux 49ers que les Cowboys. Fait que je vais y aller avec un choix plate, 49ers, Casey, pour le Super Bowl.
Ben, moi, j'avais au
Mais
début de
j'attends
l'année.
J'attends de voir qui. Je vais te dire qui va gagner, par exemple, seulement au premier round des séries.
Ouais, là, on a le droit là, de bouger notre opinion, mais la question est posée là, on va y répondre maintenant. Là. Moi, j'avais Niners contre Bengals au début de l'année. Évidemment, mon choix des Bengals est mort quand Joe Burrow est tombé. Je vais garder les Niners au Super Bowl, puis je vais y aller, tiens, avec les Bills. Si tu le fais que je reviens de là, je le sais pas. Pourtant, il y a des points d'interrogation à Buffalo en ce moment, mais c'est quand même une équipe qui a le vent d'un voile en ce moment. Fait qu'un Super Bowl Bills Niners, je dirais pas non. Yes!
T'as pas me dit que tu t'ennuyais de ça, là?
Ben oui! Non, non, mais même Robin, il nous l'a dit, qu'il s'ennuyait de son petit jingle.
Je sais, je sais. Ben le voici, Robin, le retour de ton jingle, en espérant que ça lance ta nouvelle année de façon positive.
Ben oui!
Voici la question de Robin. Que pensez-vous de ce scénario? Bill Belichick et les Pats se séparent à l'amiable à la fin de la saison. D'un côté, la direction des Jets n'est pas très satisfaite du travail de Saleh. D'un autre côté, Belichick et Aaron Rodgers discutent en privé de leurs intérêts communs à travailler ensemble. Résultat, Belichick, bête noire des Jets, devient leur coach, mais coach seulement et reprend sa tumultueuse association avec les Jets. Pensez-vous qu'une association Rodgers-Belichick serait vouée au succès? D'abord, est-ce que
j'adore,
c'est possible?
J'adore. Non, je pense pas. Parce que non. Belichick haït viscéralement les Jets. Là. Viscéralement.
Oui, on a déjà vu du monde qui s'haïssait puis s'unir pour la cause.
Ouais. Mais écoute.
Moi, là, comme partisan des Dolphins, Jason Taylor est allé jouer à New York. Là. J'ai tout vu. Là.
Brett Favre a été joué au Minnesota.
Et voilà.
Mais Belichick, tu sais, ça remonte à l'époque où il avait été coach d'un jour des Jets. Là. Lui, il s'était séparé de cette organisation-là là, en la méprisant. Après ça, il y a eu ce qu'il appelle la trahison d'Eric Mangini. Tu sais, c'était son ancien coordonnateur défensif qui était parti pour aller diriger les Jets. Ah, il pouvait plus le sentir. C'est comme viscéral, on dirait. L'autre chose dans ce scénario-là que j'aime beaucoup, là, soit dit en passant, ce serait fantastique si ça arrivait parce que ça donnerait de la maudite bonne télé. Mais pourquoi là où je vois une affaire qui accroche, c'est que je sais pas si Aaron Rodgers a le tempérament pour se faire coacher à la dure, à l'ancienne et tout. Tu sais, tu regardes au fil de sa carrière, il y a eu surtout des players coach, là. Aaron Rodgers, que ce soit Mike McCarthy, Matt LaFleur ou même Robert Saleh, qui est reconnu comme très, très proche des joueurs. Ce serait une approche complètement différente avec Belichick. Là. Donc, est-ce qu'il serait prêt à aller vers ça? J'en doute. Mais écoute, merci pour le scénario parce que faut avouer que ce serait drôle si ça arrivait. Là. Belichick qui se retrouve avec l'ennemi, avec Aaron Rodgers. Ce serait quand même assez spécial.
Il va y avoir beaucoup de scénarios de tout ça là, si Belichick fait partie de ceux qui font leur valise lors du Black Monday qui arrive rapidement. Merci à Robin d'avoir posé cette question. Merci à tous d'avoir participé encore une fois à la période des questions pour la zone payante. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Nous joindre sur les médias sociaux en nous adressant la parole directement sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi être membre de notre groupe Facebook, Nos précieux conseils Fantasy Football. Même si le Fantasy Football est terminé, on continue à rester, à garder le groupe vivant. Donc, Nos précieux conseils de Fantasy Football. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante.
La zone payante en commercial, québecormedia.com.
C'est la pause avant le bar. Alors, allez vous chercher des chips et on revient dans quelques secondes. Bougez pas.